Voilà, nous sommes revenus. Nous allons commencer la deuxième partie de cette conférence avec Benoît Raphaël et Véronique Ventos, que je vous ai présenté brièvement tout à l'heure. Donc Benoît Raphaël interviendra en premier. Et ensuite Véronique Ventos qui nous parlera de l'IA hybride. Donc Benoît Raphaël, comme je vous disais tout à l'heure, est journaliste spécialisé dans le domaine du numérique. Voilà. Benoît, je vous donne la parole.
Merci, bonjour. Alors, vous avez certainement vu passer cette photo ou lu dans les médias, cette incroyable, effrayante information.
Attends un moment, Benoît, s'il te plaît. Attends.
Vous m'entendez pas ?
Je n'entends pas.
Attends un moment, s'il te plaît.
Tu vas mettre un micro, après. Ouais. Alors, juste un souci technique. Si on met le micro, en fait.
Vous entendez, là ?
On parle là.
Est-ce que vous m'entendez ?
Non, je ne crois pas que ça...
Essaye, s'il te plaît.
Moi, je ne sais pas. J'essaie de parler. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, on t'entend. Merci.
Vous m'entendez ? D'accord.
Tu peux parler, Benoît.
Est-ce que vous voulez que je commence, que vous me dites ? D'accord. Vous m'entendez ? C'est bon ? J'ai du mal à... Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on t'entend très bien. Tu peux parler.
Donc je peux commencer. D'accord. Très bien. Bien, bonjour. Voici une image que vous avez peut-être vue passer, ou alors vous avez lu dans les médias cette incroyable, cette effrayante information selon laquelle une société chinoise avait décidé de confier la direction de l'entreprise à un robot. Alors tout le monde évidemment a hurlé à l'apocalypse, ou presque, sauf que c'est faux. Cette info est fausse et c'est terriblement gênant pour plusieurs raisons. D'abord parce que les médias généralistes parlent mal de l'intelligence artificielle et c'est super énervant. Et c'est pas sans conséquence d'ailleurs sur notre compréhension des vrais problèmes qui sont liés à la technologie. Alors, en gros, l'info disait quoi, hein ? Une femme, robot, chinoise, est devenue la première intelligence artificielle CEO d'une entreprise. Alors on retrouve ici tous les mots-clés qui font peur, qui excitent nos fantasmes apocalyptiques. Chinois, robot humanoïde, intelligence artificielle qui pique le job des humains ou prend des décisions à leur place. Et je passe le fait que ce soit une femme qui pourrait inquiéter certains que les femmes prennent le pouvoir. En fait, tout dans cette histoire est sujet à caution. Quand on creuse un peu l'origine de l'article, d'ailleurs, on trouve uniquement un communiqué de presse, rien d'autre. Aucun journaliste n'est allé interviewer l'entreprise en question, n'est allé vérifier. Tout le monde s'est contenté de reprendre le communiqué de presse. Alors, en fait, il n'y a pas de robot. Il y a un personnage en trois dimensions, en 3D, qui est la spécialité de la boîte, d'ailleurs, qui fait des jeux vidéo, qui travaille notamment dans le métavers. Elle n'est pas CEO. Elle fait partie d'un groupe de CEO tournants. Et en fait, si on essaie de creuser un petit peu les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'état de l'intelligence artificielle, et quand on lit entre les lignes du communiqué de presse, laisse penser qu'il s'agit surtout d'une boîte à outils, comme la plupart des outils d'intelligence artificielle. C'est rarement une intelligence, c'est une boîte à outils avec plusieurs algorithmes, plusieurs outils, qui permet d'utiliser différents algorithmes et de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de l'entreprise. Donc en gros, rien d'extraordinaire, sauf le coup de com'. Le problème avec ce genre de traitement qui est sensationnaliste, c'est que ça met l'accent sur une anthropomorphisation trompeuse de l'IA, plutôt que de la présenter pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un outil, avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, un outil au service des humains. Et ça attise les fantasmes, mais ça participe en fait à la désinformation. Alors il est temps que l'on parle de l'intelligence artificielle sérieusement. Alors moi je suis Benoît Raphaël, je suis journaliste, entrepreneur, je suis éleveur d'intelligence artificielle chez Flint. Alors, c'est un drôle de métier, c'est un métier du futur peut-être. De quoi s'agit-il ? Eh bien moi je fabrique des outils d'intelligence artificielle et je les ponce un peu comme des outils avec les bonnes données pour éviter qu'elles aient des biais afin que chacun puisse les utiliser pour être plus efficace dans leur métier. Alors moi j'éduque des robots, mais j'éduque aussi des humains pour les aider à mieux utiliser cet outil. Et mon intelligence artificielle, qui s'appelle Flint, vous pouvez retrouver gratuitement sur flint.media, elle nous aide à trouver et partager les meilleurs contenus d'information sur Internet en mettant l'accent sur la qualité des sources et la diversité des sources. En gros, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais c'est un outil qui est particulier, parce qu'en fait, il automatise nos fonctions cognitives pour nous faire gagner du temps, si on veut résumer. Et parce qu'il automatise un certain nombre de fonctions cognitives, son développement s'accompagne toujours de la peur qui nous remplace. Et en fait, quelque part, il pose une question intéressante. Si nous avons peur que le robot nous remplace alors qu'il n'est qu'un outil, peut-être est-ce que nous travaillons ou que nous pensons comme des robots. Peut-être sommes-nous nous-mêmes des outils. Et dans ce cas, quelle est notre valeur? Sommes-nous remplaçables par d'autres outils, c'est-à-dire par d'autres humains équivalents qui feraient la même chose que nous? Ou est-ce que nous serions remplaçables demain par des robots? Et en cela, le développement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail nous interroge sur la valeur de ce que nous faisons, sur notre capacité à être créatif, sur ce qui rend chacun de nous exceptionnel, unique et donc indispensable. En fait, il est vrai quand même que, pour nuancer ce que je viens de dire, que les dernières évolutions de l'intelligence artificielle ont de quoi nous bousculer quand même dans nos certitudes, et je vais vous donner quelques exemples. En août dernier, un type comme vous et moi, qui n'était pas un artiste avant qu'il ne découvre l'intelligence artificielle artistique, entre guillemets, et sans doute pas plus après d'ailleurs, enfin il y a débat, il a remporté le premier prix d'un petit concours d'art, un concours d'art local aux États-Unis, mais qui a eu un grand impact, puisque effectivement, tout le monde s'est mis à en parler. L'œuvre s'appelle, en français, Théâtre d'opéra spatial, et elle a été vendue au prix de $750. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour générer ce tableau numérique, l'auteur, Jason Allen, il a simplement entré une phrase dans l'interface d'une IA génératrice d'images, donc, cette phrase, alors c'était plus ou moins, il n'a pas donné vraiment de détails, de précision, mais globalement, il a expliqué que c'était plus ou moins théâtre d'opéra spatial, et donc il a pu obtenir cette image. L'outil qu'a utilisé Jason Allen s'appelle Midjourney, il fait partie avec DALL-E ou Stable Diffusion, des nouvelles plateformes d'intelligence artificielle dites créatives, ou plutôt génératrices. C'est-à-dire, en fait, elles sont capables de générer des images, souvent très réalistes, à partir de simples instructions, on appelle ça des prompts. Alors évidemment, avant de vous écrire « ouais, c'est nul, il n'y a aucune émotion », je vous invite à tester par vous-même et à jouer avec ces petits robots artistes, parce que moi, j'y ai passé quelques nuits et je reconnais que c'est carrément fascinant. Alors, les résultats ne sont pas toujours extraordinaires, mais en fait, si vous essayez, on a parfois des résultats intéressants. C'est pas la première fois que le monde de l'art, en fait, et de l'intelligence artificielle se percutent. Je sais pas si vous vous souvenez d'un collectif français qui s'appelle Obvious et qui avait déjà défrayé la chronique en 2018. Une de ses œuvres, en fait, générée avec une autre technologie, hein, qu'on appelle la technologie GAN, avait été vendue $432,000 aux enchères chez Christie's à New York. Alors, il y avait beaucoup plus de travail et d'intention derrière. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que n'importe qui peut générer une œuvre d'art à partir d'une seule commande et grâce à une nouvelle technologie qu'on appelle le diffusion model. Alors, est-ce que c'est encore de l'art? Encore faudrait-il définir l'art? Le débat est ouvert, il n'est pas nouveau. Mais c'est sans doute pas le bon débat, en fait, parce que l'art, c'est une démarche humaine, elle relève d'une intention. Je ne sais pas si vous vous souvenez de La Fontaine de l'artiste Fernand Léger, qui donc reprenait un urinoir qu'il n'avait pas créé. La fonction de l'artiste, elle est d'interroger, et donc ils ont à leur disposition différents outils, dont aujourd'hui l'intelligence artificielle. Certains s'en emparent déjà, enfin en gros, les artistes font leur boulot. Le véritable impact économique de ces nouveaux outils, en fait, il concerne plutôt l'avenir des illustrateurs. Parce qu'on peut désormais générer n'importe quelle image gratuitement pour illustrer un article ou une affiche. Le quotidien suisse Le Temps vient d'ailleurs de publier son dernier magazine entièrement illustré par une intelligence artificielle. C'est assez étonnant. Et donc on peut créer très facilement, en quelques secondes, une image pour illustrer un article ou une affiche. Alors pourquoi encore faire appel aux illustrateurs, vous allez me dire. Alors au passage, l'arrivée de ces générateurs automatiques pose également des questions, alors sans fin, de droits d'auteur, on n'a pas fini d'en parler. D'autres, par contre, préfèrent une approche un peu plus destruction créatrice, si j'ose dire. C'est-à-dire que si le robot excelle dans l'exécution, ben on se dit, est-ce que l'humain pourrait inventer un nouveau métier? Celui, par exemple, de la création de prompts, c'est-à-dire la commande qui permet de créer les plus belles œuvres. Et bien en fait, alors croyez-moi, il existe un site de vente des meilleurs prompts qui est déjà en ligne, et certains appellent ça le prompt art. Alors ça, c'est pour les images, mais dans le domaine de l'écriture, l'intelligence artificielle fait également d'énormes avancées. Elle peut nous aider à écrire des textes ou le faire à notre place. Elle peut aussi faire preuve d'expertise pour nous aider à mieux englober la complexité d'un problème. Alors sur ce dernier point, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Mais regardez par exemple les récents développements dans le domaine de ce qu'on appelle les Large Language Models. Donc vous avez peut-être entendu parler, le plus connu s'appelle GPT-3, il était inventé par OpenAI, qui est financé en grande partie par Microsoft et qui a été fondé en partie par Elon Musk. Alors c'est un modèle qui est capable d'écrire une histoire ou un article avec un rendu assez cohérent. Alors pour l'instant, ce genre d'outil est incapable de produire une analyse en profondeur, mais c'est déjà très efficace pour résumer un problème ou alors pour écrire des banalités à son sujet. Et du coup, à ce stade, en fait, une première question se pose, que moi je me suis posé en tant que journaliste, et lorsque l'intelligence artificielle écrit un article, dans quelle mesure est-ce qu'on peut être certain qu'elle raconte la vérité? Alors on n'en est pas sûr, parce que c'est, effectivement elle s'appuie sur une base de connaissances, et en même temps elle essaie de trouver une cohérence grammaticale, donc entre les deux, où se trouve la vérité? Alors les créateurs de GPT-3 expliquent que l'intelligence artificielle s'appuie sur une large base de connaissances accessible sur Internet, mais elle n'est pas filtrée, ce qui l'amène parfois à inventer lorsqu'elle n'a pas de réponse ou qu'elle n'est pas sûre. Alors ça existe aussi chez les humains, hein. Quand on n'a pas de réponse, on a tendance à inventer. On appelle ça d'ailleurs la confabulation. Alors ce biais, entre guillemets, créatif de l'IA, il peut être plus ou moins réglé en amont. Il y a des réglages sur l'interface qui permet de rendre l'IA moins créative. Mais enfin bon, quand même, ça pose quand même la question. Alors il y a des chercheurs qui ont analysé le risque que l'IA puisse mentir lorsqu'elle écrit des articles. Et donc les résultats sont intéressants. Le meilleur modèle de génération de langage, qui est GPT-3, donnait des réponses justes pour 58% des questions, tandis que les performances humaines étaient de 94%, donc il y a encore un petit peu de marge. Et donc là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais alors est-ce que les robots vont quand même nous remplacer? Alors la plupart des intelligences artificielles comme Flint, par exemple, sont des boîtes à outils, c'est-à-dire que chaque outil règle un problème à la fois. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle qui sont spécialisées, non pas générales. Mais les récents bons qui ont été réalisés par ces nouvelles technologies nous en rapprochent. On a longtemps parlé de l'hiver de l'IA, puis on a parlé du printemps de l'IA aux alentours de 2016. Et aujourd'hui, les spécialistes parlent de l'été de l'IA, c'est-à-dire qu'on commence à récolter tout l'investissement qui a été réalisé ces dernières années, notamment l'usage d'énormément de données. Et c'est vrai que on se rapproche de cette idée que l'IA puisse devenir générale, mais c'est aussi parce que c'est le fantasme de certains chercheurs. Alors, par exemple, on a un chercheur qui était plutôt sceptique il y a quelques années, qui comparait l'intelligence artificielle à l'intelligence d'un rat. Ce chercheur, il s'appelle Yann LeCun, vous le connaissez sans doute, c'est le vice-président de Facebook, qui est responsable des programmes de recherche d'intelligence artificielle. Il vient de publier un papier scientifique, enfin pas vraiment une recherche scientifique, mais un papier qui pose les bases de ce qu'on pourrait appeler une intelligence autonome. Il s'appuie notamment sur le fonctionnement du cerveau. Son idée, c'est de reproduire et de faire travailler ensemble différents centres similaires à ceux qui sont utilisés par notre cerveau. Je ne sais pas si vous savez, il y a plusieurs zones du cerveau qui interviennent. Ce n'est pas forcément si simple que ça. Et donc, il pense pouvoir s'inspirer de ces différentes zones du cerveau qui travaillent ensemble pour permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre, de prédire et de prendre des décisions. Alors, en fait, on est encore très très loin d'une intelligence artificielle qui pourrait être autonome, mais les progrès réalisés par les derniers modèles, notamment grâce à ce qu'on appelle les Transformers, alors je ne sais pas si vous connaissez les Transformers, il ne s'agit pas des robots qui se transforment en camions, il s'agit d'une technologie d'apprentissage profond qui utilise notamment les réseaux de neurones et qui permet à l'intelligence artificielle d'apprendre beaucoup plus vite, sans avoir par exemple à suivre l'ordre des mots dans une phrase. Et c'est cette technologie qui a été inventée par Google qui est utilisée par les larges modèles de langage comme GPT-3. Alors le résultat, eh bien, un récent rapport de Stanford a analysé sur plusieurs années les performances de l'IA dans la compréhension de texte. Or, ses capacités sont désormais supérieures à celles d'un humain. L'IA, explique ce rapport, dépasse déjà de 1 à 5% les niveaux de performance de l'homme dans la compréhension de lecture de base, comme par exemple le logiciel Superglue. Et le rapport ajoute, les systèmes d'IA ne sont toujours pas en mesure d'atteindre les performances humaines sur des tâches linguistiques plus complexes. Alors, de quoi on parle ? Par tâches complexes, le rapport entend la capacité, par exemple, de lire entre les lignes d'un texte lorsque les infos sont incomplètes. Un humain est plus capable de le faire, mais dans ce domaine, qu'on appelle l'inférence abductive, l'IA était inférieure à l'humain de 9 points en 2019, et en 2021, cet écart n'était que de 1. Alors, si vous voulez vous amuser à comparer vos compétences humaines avec celles d'un robot, vous pouvez faire un petit exercice assez énervant sur Internet, qui est en anglais. Alors, comment vous jouez ? En fait, la machine vous donne un mot et vous devez deviner le mot qui vient après. Et c'est à cet exercice de devinette, en fait, le robot est sans doute déjà meilleur que vous. Par contre, c'est là qu'il faut modérer ce que je viens de dire, il n'est toujours pas capable d'aller au-delà des mécanismes superficiels de la pensée. En fait, l'IA automatise des fonctions cognitives que, je ne sais pas si vous connaissez, le prix Nobel Daniel Kahneman appelle le système 1. C'est la pensée automatique et rapide qui l'oppose au système 2, qui est la pensée rationnelle, lente et profonde. Mais il est envisageable que dans ce domaine-là, l'IA fasse aussi des progrès dans le domaine du système 2. En fait, l'activation du système 1 par l'intelligence artificielle, elle permet de mettre en place des mécanismes qui nous aident quand même à gérer la complexité avec le moins d'erreurs possible, donc dans ça c'est quand même utile, sauf que les algorithmes ne sont pas exempts de biais, ils peuvent même les accélérer. Alors de la même manière, ne faire confiance qu'au système 2, même pour un humain, c'est-à-dire la logique et le raisonnement, qui n'est pas exempt de biais non plus évidemment, mais en fait elle ne suffit pas, c'est ce que dit notamment le neuroscientifique Antonio Damasio, qui explique que même pour les humains, on a cette illusion en fait que la logique uniquement, la rationalité nous permet de prendre des bonnes décisions. En fait, il estime que c'est faux et ça peut nous amener à de profondes erreurs si elle n'inclut pas l'émotion. En fait, notre peur de l'intelligence artificielle, elle vient d'une profonde erreur qui est historique. Cette fameuse erreur de Descartes, qui est d'ailleurs le titre de l'ouvrage d'Antonio Damasio, qui en fait estime que justement seule la raison nous permet de prendre des décisions. En fait, c'est pas ce que dit Damasio. Le développement de l'intelligence artificielle nous fait peur en fait parce que il semble indiquer que seule la pure logique, dont nous sommes globalement dépourvus, en tout cas c'est compliqué pour nous, peut régler tous les problèmes sur lesquels nous, pauvres humains, nous faisons tant d'erreurs. Et là, c'est mal comprendre le fonctionnement de l'intelligence, ce qu'on appelle l'homéostasie cérébrale, qui implique que les émotions sont indispensables pour justement réguler notre comportement intellectuel. Voilà, je vous laisse avec cette très belle image d'un robot coupleur, on n'en est pas encore là, mais l'émotion en tout cas est certainement un des prochains stades à atteindre pour commencer à réfléchir à une intelligence artificielle qui pourrait être véritablement autonome.
Merci Benoît, merci. On va peut-être enchaîner avec la présentation de Véronique Vantos et après on fera le débat, il y aura peut-être des questions pour toi. Tu peux arrêter le partage de ton écran, s'il te plaît. Donc, on laisse la parole à Véronique Vantos. Je peux arrêter à la caméra, Benoît, s'il te plaît. Ok, très bien.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis chercheure en intelligence artificielle. J'ai fait une carrière académique et depuis plus de 4 ans, je suis Head of Research chez Mukai. Mukai, c'est un laboratoire privé d'intelligence artificielle que j'ai cofondé avec Jean-Baptiste Quentin. Et le but, pour faire simple, de la création de cette start-up était de faire une IA différente, une IA hybride. Alors, pour illustrer mes propos, en fait, je vais me servir de la première réussite de Mukai par rapport à ce design d'une IA hybride et qui est en fait un robot de bridge qui, je vais essayer d'expliquer, a une structure hybride. Et notamment, je vais vous parler du challenge que nous avons organisé en mars dernier qui a permis de comparer notre robot avec 8 champions du monde de ce jeu. Avant ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Excuse-moi pour changer le Ok, merci. Je vais revenir un petit peu en arrière sur situer hein, où on en était par rapport à la vision de l'IA en 2018. En fait, on était en pleine, comme d'habitude, hein, il y a toujours eu une guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2018-2017, l'IA était très très représentée par rapport à un tout petit bout de l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on pouvait voir dans les médias, dans les entreprises et notamment à travers les GAFA. Alors ce paradigme, en fait, c'est un paradigme qu'on appelle numérique, c'est ce que Benoît vous a décrit, c'est les réseaux neuronaux profonds, etc. Alors, et l'apprentissage. Voilà. Mais en fait, il y a des tas de choses. Je ne vais pas faire un panorama complet de l'intelligence artificielle, mais en gros, ces méthodes, effectivement, elles sont très, très efficaces pour certaines choses, pour certains problèmes, notamment ce qu'on appelle pattern recognition, les images, les vidéos, etc. Mais le constat, aussi bien pour moi d'un point de vue recherche, que pour Jean-Baptiste, d'un point de vue business dev, était qu'elles avaient quand même pas mal de défauts. Alors, je vais faire une liste très courte des défauts. La première, c'est qu'en fait, elles ne permettent pas d'avoir une bonne interaction entre l'homme et la machine. Elles sont ce qu'on appelle des approches black box. Ça veut dire que la machine va prendre des décisions, va faire des choses, mais il n'y a jamais d'explication autour de ces décisions. Et surtout, elles sont juste en train de cramer toute l'énergie de la planète. Elles sont extrêmement coûteuses en énergie et tous les data centers. Hein, pour la petite histoire, nos locaux se trouvent à la butte aux cailles et la piscine de la butte aux cailles qui est très grande, elle est chauffée par un data center en dessous. Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que par rapport à tous ces problèmes, bah, finalement, on avait beau nous survendre ça, on n'allait pas pouvoir résoudre tous les problèmes et la plupart des problèmes de la vie réelle où c'est pas si simple que juste des images et des photos. Alors, une petite analogie, c'est un petit peu comme si on avait un marteau super puissant et puis plutôt que de se dire, bah, très bien, le marteau c'est très très bien pour des clous et on va essayer finalement de voir tous les problèmes comme des clous, quitte à utiliser ça sur des vis et à faire des fissures dans le mur. Donc, pour nous, utiliser ce monoparadigme, c'était aller droit dans le mur pour revenir vers un fameux hiver de l'IA avec toutes ces déceptions. Alors, ça, c'est par rapport aux critiques. Maintenant, bah, quand on fait des critiques, on essaie de trouver des solutions. Donc, le but de nos cas au départ était d'essayer de créer ce qu'on appelle des IA nouvelle génération, donc des IA hybrides, avec comme point fort de pouvoir établir une bonne collaboration avec l'humain. Donc, le but, en fait, c'était de construire une boîte à outils et de garder l'humain dans la boucle. Et j'essaierai d'expliquer ce que ça veut dire de garder l'humain dans la boucle plutôt que de remplacer l'humain par une machine. Bien sûr, on voulait que nos méthodes puissent être associées pour chaque décision à des explications et puis surtout de permettre de consommer beaucoup moins de ressources. Donc tout ça, je vais l'illustrer sur le robot Bridge. Et en fait, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'une IA hybride ? Bah, c'est une IA qui va combiner différents paradigmes de l'intelligence artificielle, le deep learning, le réseau profond en font partie, mais pas que, et puis de pouvoir ensuite construire de nouveaux outils quand le problème existant ne peut pas être résolu par des outils existants. Et en fait, bah, c'est facile de dire ça, mais si on veut mixer les paradigmes, ça veut dire qu'on doit mettre ensemble des chercheurs, des ingénieurs qui viennent de différentes communautés. Et ça, c'est très difficile, parce que même si on attaque les mêmes problèmes, on n'a pas le même jargon, on ne travaille pas ensemble, on n'est pas dans les mêmes conférences, etc. D'où l'idée d'utiliser le bridge. Donc le bridge qui est en fait très très excitant parce que c'est un très beau sport de l'esprit et surtout parce que c'est encore un des derniers jeux qui résiste justement aux approches classiques. Hein. Donc en fait il faut savoir que les jeux ont toujours été utilisés pour comme des malus tons de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu les échecs, Deep Blue, il y a eu le Go, AlphaGo, on en a beaucoup entendu parler. Et en fait bah, le bridge par ses caractéristiques, résiste complètement à toutes les méthodes actuelles qui sont très performantes, par exemple sur les images, etc. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et surtout, le fait que ce soit un challenge, ça nous a permis, hein, on est jeune, mais ça nous a permis au sein de Nukai de pouvoir recruter bah, des différents talents, que ce soit des chercheurs qui sont très très connus dans leur domaine, mais aussi des ingénieurs de recherche, des experts de bridge, etc. Et ça nous a permis aussi, ce challenge, de bénéficier de collaborations externes qui étaient intéressées par le fait de travailler sur un problème extrêmement difficile. Donc, évidemment, cette histoire de boîte à outils, ça ne veut pas dire que chez Nucaï, on sait tout faire. Il n'y a aucune boîte qui sait tout faire. Donc, pour faire très simple, on a mis en bleu un petit peu nos spécialités. Mais bien entendu, tous les problèmes qui peuvent être résolus de la vie réelle vont avoir besoin d'autres paradigmes d'intelligence artificielle. Et dans ces cas-là, on va contacter des gens, des spécialistes, pour travailler avec eux. Et le but, je le répète, c'est de créer au fur et à mesure une boîte à outils au service de l'homme. Alors, je vous embête un peu avec le bridge. Alors, le bridge, c'est un jeu où les règles sont très très simples. C'est un jeu où c'est pas comme à la belote où on compte les points, on va compter le nombre de plis. Voilà. Et c'est un jeu qui est réalisé avec un paquet de cartes complètement standard. En revanche, c'est très facile de comprendre les règles du jeu, c'est très difficile de jouer bien en bridge et les raisons sont liées au fait que on est en information incomplète, sans arrêt. Ça veut dire qu'au départ, les cartes sont données, on voit nos 13 cartes, ça s'appelle une main, et on doit prendre des décisions avec 39 cartes cachées. C'est énorme, le facteur de complexité est énorme. Donc le Go, c'est un jeu d'information complète, hein. On sait exactement ce qu'a l'adversaire, c'est pareil pour les échecs. Et sur le poker, la complexité, c'est-à-dire l'information incomplète, est beaucoup, beaucoup moins importante que celle liée au bridge. D'autre part, et ça c'est très important et très intéressant, si on veut ensuite transférer ça sur les problèmes de la vie réelle, on a à la fois un partenaire qui est en face, mais aussi deux adversaires. Donc c'est ce qu'on appelle un jeu multi-agent, et c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile à modéliser et de définir des robots de bridge. C'est vraiment un énorme challenge. Alors, très rapidement, il y a deux étapes. La phase des enchères, elle est horrible, je ne vais pas vous en parler, elle est très liée à une sorte de langage codé, elle permet juste de réduire l'ensemble des possibilités parce que les gens vont utiliser des bidding cards pour essayer d'atteindre un contrat. Un contrat, c'est je m'engage à faire au moins tant de plis avec un atout ou pas d'atout. Voilà. Et puis, dans une seconde étape, par contre, le camp qui a remporté les enchères, donc qui a remporté le contrat, il va essayer de faire ce nombre de plis et les adversaires vont essayer de l'empêcher de faire ce nombre de plis. Et tout le challenge a été basé sur cette phase de déclarant, c'est-à-dire le camp en attaque. On a voulu être ferme, c'est pas toujours le cas, hein. On n'a pas voulu faire un gros coup de pub avec de la recherche assez pauvre derrière, et c'est pourquoi déjà on a choisi vraiment les 8 champions du monde extrêmement reconnus et qui avaient des profils psychologiques différents. Et ce qu'on a fait également, c'est que pour rendre ce challenge fair, on a essayé de mettre au maximum les humains et notre robot dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la marque duplicate. Le robot et le champion ont exactement les mêmes 13 cartes. Ils jouent contre les mêmes adversaires. En face d'eux, le partenaire, c'est ce qu'on appelle le mort, a exactement les mêmes cartes également. Et le déclarant, il va devoir choisir des cartes chez lui. L'adversaire joue des cartes chez son partenaire qui est allé, donc ces cartes sont visibles aussi des défenseurs. Pour chaque partie, c'est exactement le même nombre de plis à faire, 9 plis à son atout, et puis les robots en défense, j'expliquerai pourquoi après ce sont des robots, vont réagir de la même manière quand c'est l'humain ou le robot qui vont jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque champion a joué 100 donnes, 100 parties, manière de distribuer 13 cartes, et ensuite on a comparé. Alors notre but c'était, parce que jusque-là il n'y avait aucun robot qui était arrivé même au niveau d'un bon joueur humain, alors encore moins des champions. Donc notre but c'était d'essayer de voir si notre IA hybride arrivait à battre 1, 2 ou 3 champions. Bon, j'arrête le suspense. En fait, là vous voyez le résultat. Notre robot hybride finalement a battu les 8 champions. Alors, c'était un moment très émouvant, bien sûr pour l'équipe mais aussi pour les bridgers, parce que c'était la première fois de leur vie de champion qui se faisait battre par des robots. Mais en même temps, ils étaient aussi extrêmement contents parce que ça permettait de mettre en avant la qualité du bridge où on ne peut pas jouer simplement en faisant des calculs. C'est ça qui est très intéressant. Benoît parlait d'inférence. La Satya hybride, elle va faire des inférences. Je vais expliquer rapidement maintenant en quoi ce robot était un robot hybride. Donc je l'ai déjà dit, on a en fait développé des méthodes vraiment qui viennent de différents champs, et puis quand c'était pas assez, on en a créé de nouvelles. Et ça c'est très intéressant parce qu'on commence à les transférer sur des applications de la vie réelle. Un petit schéma donc de Nook, le petit robot qui a l'air tout mignon mais qui a battu les champions. Donc ce qu'on peut voir en haut, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la théorie du domaine. C'est-à-dire qu'ici, on a utilisé des méthodes symboliques qui utilisent de la logique, une sorte d'espéranto, parce que et la machine et l'humain vont le comprendre. Donc c'est ce qui permet aussi de donner des explications. Mais c'est en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré, alors c'est pas un vieux système expert, hein, c'est des méthodes assez novatrices qui ont été développées dans le cadre du web sémantique. Déjà, on a récupéré les règles du jeu parce qu'on trouve ça complètement idiot de dire oh je vais laisser le robot regarder les millions de parties, il va apprendre les règles. Ben non, c'est idiot, un humain, on lui donne les règles du jeu, on lui demande pas de les apprendre. Ça c'est la première chose, et ensuite on a rentré tout ce qu'on pouvait sur l'expertise humaine justement pour garder l'humain dans la boucle, et c'est ce qui nous a permis d'avoir une IA verte, c'est-à-dire peu consommatrice, parce qu'on n'a pas cramé les processeurs pour essayer d'apprendre des choses que l'humain pouvait donner. Et ça, c'est ce qu'on va faire sur les applications. Si on attaque le domaine de l'aéronautique, la première chose, c'est qu'on garde l'humain dans la boucle, on va lui demander son expertise, on va la capitaliser et on va être capable de l'exploiter. Alors, au centre, ça, c'est un algorithme de recherche heuristique très, très novateur, mais qui va interagir justement avec cette connaissance en logique. Et puis, on a un réseau profond. Et ce réseau profond, en fait, il a été utilisé pour mimiquer les joueurs en défense, parce que ça, c'est la force d'un réseau neuronal, de pouvoir en fait reproduire un comportement humain. Et comme je l'ai dit, on voulait que ce soit juste, c'est-à-dire que les défenseurs réagissent de la même manière, et là, il n'y avait pas mieux qu'un réseau neuronal. Donc, on n'est pas à dire, oui, revenons au symbolique, et à bas le deep learning, pas du tout. C'est vraiment l'effort de dire, on va faire des choses, il faut être guidé par le problème, il ne faut pas être guidé par sa méthode. On a un problème, bah on regarde. Des fois, ce n'est même pas des techniques d'IA, ça va être des techniques d'info ou de recherche opératoire. On s'en moque, on veut juste arriver à réaliser notre challenge. Ce qui est très important, c'est que Nook, à chaque étape, va donner une décision. Alors, une décision, c'est très simple, c'est je pose une carte. Je pose une carte. Mais on peut lui demander de fournir des explications sur la prise de décision. Alors, j'ai pas le temps ici, hein, j'ai une présentation plus complète pour montrer ce que c'est, mais en gros, explication, donc ça c'est juste du redire, elle est liée à une sorte de module probabiliste, parce que quand on a l'information incomplète, ben, en fait, on va pas raisonner de manière certaine, on va raisonner de manière probabiliste, et ce qui se passe, c'est que on va pouvoir donc récupérer notamment ce que j'ai dit, l'énergie verte, et modéliser et récupérer l'expertise humaine. Et ce qui est très important, c'est que c'est ça aussi qui a permis que Nook ait un comportement beaucoup plus humain. Donc là, on est en train de faire un test de Turing, c'est-à-dire montrer à des joueurs de bridge une partie, via une interface, et leur dire est-ce que c'est notre robot qui joue ou est-ce que c'est un humain. Ça, c'est aussi important. Et la chose qui est la plus novatrice, c'est le fait que jusque-là, tous les algorithmes en info incomplète considéraient que les adversaires avaient l'info complète. Et ça, si on joue comme ça au bridge, on joue très très mal. Et ici, au contraire, on a voulu profiter du fait que les défenseurs aussi ne voyaient pas nos cartes pour leur faire faire des fautes. Et c'est ça qui le rend extrêmement humain. Finalement, donc, par rapport à l'explicabilité, hein, t'as plus de boîte noire, le module explication, il est très différent suivant les domaines. Une explication pour un médecin, pour un élève, c'est pas la même chose que pour des bridgers. Il se trouve que pour un bridger, la meilleure explication, c'est de dire, au moment où il a posé sa carte, voilà ce qu'il a dans la tête. Mais voilà ce qu'il a dans la tête à haut niveau. On va pas montrer les 5 millions de mondes possibles. On va parler avec son vocabulaire et en fait, ça c'est une toute petite illustration. il y a des champions qui ont joué, deux champions qui ont joué une dame, ils ont perdu cette dame contre le robot, et quand ils ont regardé le robot jouer, ils ont dit, il est complètement stupide, il a eu de la chance, parce qu'il y a de la variance au glitch. Donc on a lancé le module explicabilité, on leur a montré ça. Alors vous, ça ne va pas vous parler, mais pour eux, finalement, c'était la clé du coup. C'est-à-dire que ça, c'est le champ d'explication qu'on peut fournir, qui parle à un expert de bridge. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de connaître la manière de répartir les pierres, les piques, les carreaux, les trèfles, et des cartes importantes, etc., avec les probabilités. Et en fait, une fois qu'on a montré toutes les inférences de Nook, donc les inférences sur des règles humaines d'Anthem, les inférences dans sa manière de jouer sur la distribution, etc., il a fait finalement, il a fait une inférence, il a couplé les différents mécanismes, ça peut être l'abduction, comme l'a dit Benoît, etc., mais aussi d'épiler des règles, etc. Et sa conclusion était que le joueur de droite avait toujours plus de trèfle que le joueur de ouest. Et à la suite de ça, il a aussi pu retrouver, il a expliqué pourquoi il savait que le roi de trèfle était à 100%. Ça, c'est un mélange de bridge et de logique, donc je vais pas aller jusqu'au bout, mais il a fait un très joli coup, ce qui fait qu'à la fin, finalement, les deux champions ont dit « Waouh, ah oui !» En voyant comment il a joué, ils ont dit « Mais c'est complètement idiot, il a joué le 2 trèfle pour le 3 trèfle, il a perdu, ah, il a eu de la chance. » Et après les explications, ils ont dit « Waouh, vraiment très bien joué. C'est vrai que si j'avais une demi-heure, j'aurais pu trouver ça. » Et très bien joué, pas parce qu'il y a de la puissance de calcul, mais parce qu'il a vraiment fait des inférences. Pour conclure, évidemment, c'était vraiment une première mondiale, ça a été extrêmement médiatisé, mais en fait... le but, c'est pas de dire on est les plus forts, on a pris qu'un tout petit bout du bridge, mais par contre, les méthodes novatrices, elles sont là sur ce petit bout du bridge, et on continue maintenant à se servir de ce magnifique jeu comme bac à sable pour développer d'autres méthodes, et notamment, on va s'attaquer à la défense, où là, il y aura l'aspect collaboratif, et ça pourra se transférer sur d'autres verticales business. Alors, ça, c'est vraiment pour dire, le but de par exemple, pour AlphaGo, c'est qu'est-ce qu'on peut transférer. C'est très difficile de transférer quand il y a des réseaux neuronaux, parce qu'on a vraiment appris, surappris, alors qu'en fait, une méthode générale qui va utiliser un mix de toutes les méthodes va moins être sur le problème et pouvoir être transférée. Donc là, on a commence à transférer sur des trucs d'aéronautique, d'éducation, etc. Et sur le côté IA verte, pour finir, on a en fait dépensé 200 000 fois moins de ressources informatiques que celles utilisées pour le challenge du coup. Voilà, c'est par rapport grâce à tout ce que j'ai raconté. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, c'est une petite vision de ce que ça peut être de travailler ensemble, en fait.
Donc, moi, je vais juste prendre quelques minutes. Donc, je vais faire mon partage d'écran. Donc, merci pour vos présentations. Donc, ma présentation va être assez rapide, c'est juste pour faire un peu aussi le lien avec ce qu'on a dit dans la première session et dans ces deux sessions. Moi, je suis doctorant ici à Paris-Nanterre, en sciences de l'information et de la communication, et je ne suis pas du tout un expert d'intelligence artificielle, donc ma présentation va être beaucoup moins technique par rapport à celle qu'on vient de voir. Je vais par contre essayer de dire quelque chose sur la question des imaginaires de l'intelligence artificielle, qui est un peu la thématique de cette matinée, que d'une manière ou de l'autre a émergé aussi dans les présentations de Benoît et de Véronique, même si de manière un peu plus indirecte. On avoue effectivement au cours de cette matinée que les imaginaires, comme disait par exemple Alberto ou Antonin dans la première session, sont quelque chose de concret, c'est pas juste une couche secondaire qui vient s'ajouter la recherche et le développement scientifique et technologique, mais c'est vraiment quelque chose qui constitue, qui fonde d'une certaine manière la recherche. Et donc ça avait été reconnu déjà, par exemple, en 2018, dans un rapport du mathématicien Cédric Villani, mathématicien et député. Dans ce rapport 2018, déjà, il commençait ce rapport en rappelant, en soulignant ce lien très strict entre imaginaire et recherche et développement d'intelligence artificielle. Donc, il nous disait que ces imaginaires, d'une certaine manière, jouent un rôle majeur, même si négligé parfois, dans la direction qui prend le développement de la discipline. Donc, effectivement, historiquement, mais encore aujourd'hui, le développement d'intelligence artificielle a été très lié aux attentes sociales, politiques et à cet ensemble d'imaginaires, représentations, images qui entourent l'intelligence artificielle. On avoue ce matin aussi que la fiction n'est qu'une des expressions possibles des imaginaires sociaux, des imaginaires sociotechniques. Donc, effectivement, la science-fiction a joué un rôle central dans le développement de l'intelligence artificielle, mais il y a toute une série de discours, images de représentation, donc les images de stock, les discours de Wikipédia, mais aussi, disons, les représentations et les discours que les différents chercheurs et chercheuses peuvent produire au sein de leur projet et dans leur moment de restitution, de communication avec le grand public. Tout ça, ça contribue effectivement à développer, ça a une influence importante, ça doit avoir une influence sur ce que la société perçoit d'intelligence artificielle. Donc évidemment, ces imaginaires nous disent aussi quelque chose sur les sociétés que nous voulons construire. Donc quand on parle d'intelligence artificielle autonome, d'intelligence artificielle qui va nous remplacer, d'intelligence artificielle hybride, par exemple, on dit quelque chose sur la société qu'on est en train de désirer, qu'on voudrait idéalement construire. Et donc ces représentations, ces discours, effectivement, accompagnent le développement d'intelligence artificielle. Il y a une dimension technique du développement des différents projets, mais il y a quand même ce rôle assez important des représentations et des discours et des images. La question qui se pose en général, et que c'est un peu aussi l'objectif de cette matinée, c'est de savoir quelle est finalement dans l'imaginaire collectif la perception, la capacité de compréhension de ce que l'intelligence artificielle fait, de ce qu'elle est, des dispositifs dans lesquels elle opère. Donc ce matin, tout à l'heure avec Véronique, on a eu un aperçu d'un projet possible d'intelligence artificielle, mais effectivement, dans l'imaginaire collectif, l'intelligence artificielle reste encore, j'ai l'impression, ça c'est un peu mon hypothèse, quelque chose de très peu accessible d'un point de vue de la compréhension de la perception. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il y a une prolifération de dispositifs, de machines, de robots qui emploient l'intelligence artificielle, par exemple dans nos smartphones ou dans la voiture, ou dans différents dispositifs, on a quand même, j'ai l'impression, c'est une hypothèse qu'on peut discuter, c'est effectivement, il y a quand même une difficulté chez les citoyens communs, disons, et non techniciens, de comprendre ce que l'intelligence artificielle effectivement fait, et de comprendre aussi si, par exemple, on est en train d'utiliser quelque forme d'intelligence artificielle dans les différents dispositifs de notre quotidienneté. Donc, cette difficulté, de certaine manière, souligne encore plus la nécessité de travailler sur tout ce qui entoure l'intelligence artificielle en termes d'imaginaire, en termes de discours, de projection, d'image. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la sphère publique, on est bombardé de messages, parfois aussi un peu idéologiques. Donc, par exemple, dans la sphère politique, on nous dit, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir résoudre le problème de Covid, on va pouvoir améliorer la gestion de l'environnement. Mais il y a quand même un décalage entre ce type de promesse et la perception et l'imagination que chacun de nous, la société, peut avoir d'intelligence artificielle. Donc il est nécessaire effectivement de faire un travail sur ce décalage. Aussi, par exemple, en écoutant des personnes qui développent des projets précis pour avoir une idée un peu différente. Il y a effectivement dans ces imaginaires, il y a eu historiquement une puissance créative, on l'a vu, c'est-à-dire que l'idée de l'intelligence artificielle qui pouvait rassembler, par exemple, le cerveau humain, et c'est une idée un peu centrale qui depuis toujours constitue un peu un horizon de sens de la recherche, eh bien cette idée a joué a joué un rôle important dans le développement de certaines trajectoires de recherche. Donc, on peut dire qu'il y a ce type de ressources imaginaires, donc par exemple la comparaison et les métaphores entre le cerveau humain et les ordinateurs, l'intelligence artificielle, effectivement, a joué un certain rôle, ça on ne peut pas le nier. Même si cette comparaison aujourd'hui peut être un peu contestée et remise en question, effectivement, il y a une dimension créative. Mais la chose sur laquelle je voudrais revenir peut-être, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des imaginaires problématiques de l'intelligence artificielle qui font que, effectivement, la question que je voudrais poser, peut-être qu'on pourrait en discuter, c'est il n'y aurait pas peut-être aujourd'hui des imaginaires dominants de l'intelligence artificielle qui posent problème. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'imaginaire, mais il y a quand même une dimension très concrète, très technologique et économique, qui fait qu'il y a certains acteurs aujourd'hui, notamment des acteurs américains, des entreprises technologiques, des puissances que l'on connaît bien, qui ont quand même un rôle important dans le développement de l'intelligence artificielle et qui développent aussi toute une série de discours, d'attentes, de projections, donc un imaginaire. Et ces imaginaires, effectivement, colonisent un peu aussi d'autres points de vue sur l'intelligence artificielle. Donc la question que je pose, c'est quelle est notre perception aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Et deuxième question, est-ce que notre perception ne serait pas déjà un peu médiée par un imaginaire dominant qui n'est pas le seul imaginaire possible, mais qui est quand même l'imaginaire porté par certains grands acteurs et entreprises qui sont quand même assez problématiques. Donc je ne vais pas m'éterniser, mais effectivement, ce type de question est aujourd'hui une des questions les plus importantes au niveau aussi, par exemple, du développement d'une voie européenne ou française d'intelligence artificielle. Du coup, par exemple, dans ce rapport que j'ai déjà cité de Villani en 2018, l'auteur, justement, il se demandait quelles étaient les possibilités de s'opposer au déterminisme technologique et à cette idée d'une voie unique qui était, d'une certaine manière, prônée par les acteurs américains ou, d'autre côté, par des acteurs chinois, par exemple. Et donc, l'idée, c'était justement de trouver des voies de développement alternatives, aussi en faisant un travail sur les imaginaires, en développant d'autres conceptions d'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément alignées, qui ne correspondent pas forcément disons, à la domination de l'imaginaire californien. La question qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est faut-il s'adapter à ce type de développement économique, technologique dominant, ou alors peut-être il faut trouver d'autres voies de développement, en sachant que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose d'unique, mais c'est quelque chose qui se concrétise dans une multiplicité de projets, des projets très différents, et que donc il n'y a pas forcément une voie unique. Donc la question que je pose, et que donc peut-être on pourra discuter aussi ensemble, c'est quel type de travail peut-on faire pour développer des imaginaires et donc des projets différents qui ne sont pas forcément ceux qui répondent aux attentes des acteurs dominants, et ou aussi quel type d'alternative on peut développer, en sachant que il n'y a jamais un développement d'intelligence artificielle inévitable, inéluctable, mais il y a toujours des choix politiques, des choix sociaux qui viennent inscrire à chaque fois la technologie dans différents domaines sociaux. Merci. Je propose qu'on passe au débat. Benoît, si tu es là, tu peux peut-être allumer ta caméra. Okay, merci. Donc, je ne sais pas s'il y avait... il y a des questions dans le public déjà, peut-être qu'on peut en prendre. Par contre, si vous pouvez parler au micro. Sinon Benoît ne va pas vous entendre. Donc, il est en question.
J'ai une question pour Madame Vontos ou Bonto. Très belle présentation, je vous remercie, et très beau résultat que vous avez obtenu. Il me semble que vous avez bien approché les concepts d'intelligence plus que DeepMind dans votre projet. C'est-à-dire que finalement, ce robot, il joue comme un humain intelligent, n'est-ce pas, très intelligent. Donc en mélangeant un peu symbolique et or, ma question c'est là, est-ce qu'il est aussi génial? C'est-à-dire que DeepMind, désormais avec AlphaGo, AlphaZero, il fait des coups, il fait des mouvements dans le jeu qu'on ne peut pas comprendre. Pas juste pour des problèmes de explainable machine learning, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous l'expliquer, mais les joueurs, les personnes se rendent compte que c'est un peu de la magie, que ce n'est plus un humain, ce n'est plus intelligent. Donc il me semble que votre projet, c'est vraiment dans l'intelligence artificielle. Vous visez à faire, à créer un humain intelligent en silicium. DeepMind, c'est autre chose. Alors, ma question, c'est est-ce que vous voyez quand même une différence, par exemple, il y a moins de risques éthiques avec notre approche, j'imagine, à part que l'environnement, il ne va pas me tuer tous. Mais quand même, moi, je vois l'intérêt aussi de l'autre côté, c'est-à-dire de créer quelque chose qui est plus qu'un humain. Et deuxième petite curiosité, pourquoi vous n'avez pas fait jouer le joueur en coup, le champion humain, vu que c'est un jeu qui se fait à quatre avec deux joueurs qui coopèrent, pourquoi vous n'avez pas créé un setting dans lequel il y avait deux humains et l'ordinateur, ou même deux ordinateurs, disons, qui pas, ou encore dans d'autres combinaisons, par exemple deux humains avec deux ordinateurs, juste pour avoir plus de véracité, disons, les psychologues diraient d'adhérence à une pratique réelle du bridge, plutôt que juste une main en face de l'ordinateur en ayant simulé les autres joueurs. S'il y avait deux humains et la machine, ça serait un peu plus proche de la vie réelle. Okay. Merci.
Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. En fait, on a démarré, c'est vraiment un joueur humain, c'est-à-dire que quand on joue au bridge et qu'on est déclarant, en face, c'est pas le robot, c'est un humain qui va choisir ses cartes et les cartes qui sont là. Donc ça, c'est vraiment une partie intégrale du jeu qu'on a traité. La différence, c'est qu'il va jouer contre deux robots, j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi on a démarré par ça? Parce qu'il y avait déjà des tas de belles choses à faire, c'était extrêmement difficile. Et que finalement, c'est une sorte de point fixe. Parce que maintenant qu'on a le déclarant, on va pouvoir déjà le transférer sur des applications. Ça, je peux en parler. Et ça, c'est l'énorme différence avec DeepMind. C'est que AlphaGo, ils ont dit, maintenant, on va faire des tas de choses, etc. Et on attend encore. Nous, on est 20. Ils sont, je ne sais pas combien, ils ont des ressources et ils n'y arrivent pas. Parce que finalement, il y a beaucoup de pré-traitement, il y a beaucoup d'énergie dans AlphaGo qui sont, je le fais jouer contre lui-même et on ne peut pas faire jouer contre soi-même dans la vie réelle. Quoi. Voilà, ça c'est la première chose. Et par rapport au bridge, maintenant, on attaque ce que vous dites. C'est-à-dire maintenant qu'on a ce déclarant, eh bien, ça nous permet de pouvoir l'avoir. Et cette fois-ci, de faire des robots qui vont collaborer. C'est ce que j'ai dit dans les travaux futurs. Mais c'était plutôt malin de démarrer par le déclarant parce que c'était déjà énorme, et plus facile, plus transférable parce qu'on va quand même trouver pas mal de situations où il faut prendre des décisions tout seul avec éventuellement des choix contre des adversaires en univers incomplet. Et l'étape d'après est beaucoup plus difficile et elle va nous permettre d'avancer sur d'autres sujets parce que cette fois-ci, effectivement, on va être vraiment en multi-agent avec du collaboratif, etc. Donc là, on est parti sur les logiques épistémiques et les thésards et les ingénieurs de recherche. Maintenant, on travaille là-dessus. Je n'ai pas parlé dans notre projet qui me tient encore plus à cœur. Je l'appelle le centaure. C'est de rester sur le déclarant, mais cette fois-ci, en fait, mon idée, c'est que l'IA doit être aussi hybride homme-machine. Ça veut dire qu'on survoit l'intelligence artificielle, or l'humain, il est capable de faire des tonnes de trucs. Même en langage naturel, je suis désolée si on vous met des mots, on vous dit quelle est la suite. Si je vous dis voile, qu'est-ce que c'est? L'humain qui a souvenir qu'il y a une heure avant, on était en train de parler de bateau, il va savoir ce que c'est. Ou alors, si on était en train de parler de religion, il va savoir ce que c'est. Ça, la machine, le contexte, etc., c'est pas possible. Très bien, les petits jeux comme ça, mais si on veut faire des choses, il faut pour l'instant garder l'humain dans la boucle parce qu'il sait encore faire des tas de choses. Donc, ça veut dire que l'idée du centaure instancié sur le bridge, je peux vous donner d'autres exemples, c'est l'humain et la machine ensemble qui essayent d'être comparés à un autre humain et une autre machine. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Kasparov. Il a dit, ben voilà, maintenant, les programmes d'échecs explosent l'humain, c'est pas drôle. Donc, on va faire des couples humain-machine contre des couples humain-machine. Mais alors, c'est une bonne idée, sauf que c'est que dans un sens. Là, c'est l'humain qui peut interroger la machine pour faire des calculs. Nous, notre idée, au contraire, c'est d'avoir vraiment une collaboration dans les deux sens. L'humain peut demander des choses à la machine, mais elle peut aussi laisser la machine. Et là, c'est la machine qui va interroger l'homme en disant, voilà, pour moi, c'est pareil, mais toi, humain, tu sais des choses que je ne sais pas, parce que je ne vais pas tout modéliser. Hein. Quand je dis, on modélise l'expertise. Donc, le champion, la machine s'arrête, on est en train de créer ça, vraiment, et dit, bah voilà, humain, moi, pour moi, toutes les cartes, c'est la même récompense tout en bas. Mais toi, tu connais les adversaires, tu as peut-être des petites choses qui vont jouer en cette faveur, on va décider ensemble. Et en fait, moi, je pense que c'est le truc le plus malin, c'est un truc d'avenir. La planification, par exemple, la machine, elle va calculer des tas de choses, l'apprentissage par renforcement, etc. Mais l'humain est capable, lui, d'abstraire et de changer le niveau de représentation. Il va se dire, bah, pour résoudre ce problème, je dois d'abord passer de telle pièce à telle pièce. Et après, il va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle la planification au niveau, il va dire, bon, bah, maintenant, je vais avoir des problèmes dans cette pièce. Il ne va pas toujours être au niveau tout en bas ou tout en haut, il est capable de se balader. Et là encore, c'est super intéressant que la machine dise, voilà, bah, la planification au niveau, moi, je vais galérer parce que je suis sur mes petites micro-actions. Est-ce que toi, tu as une idée d'une stratégie générale? Moi, je vais faire le boulot, puis des fois, je vais te demander, puis là, l'humain, comme tu prenais des explications, va dire, waouh, non, là, on est mal barré. Moi, ça m'énerve parce qu'il y a des planificateurs qui ont coûté 10 millions d'euros, et moi, je vois les humains, par exemple, on a commencé à bosser avec Airbus sur les chaînes de montage d'avions, et en fait, ils disaient, mais le planifieur, c'est tellement nul. On rebascule à la main. Et ça, c'est dommage, parce que l'idée, ça serait d'avoir un planificateur hybride humain-machine. Voilà.
Il y avait d'autres questions? Ouais. La question d'Antonin.
C'est plutôt une question pour Véronique Ventos, mais peut-être que Benoît Raphaël aura aussi des choses à en dire. On utilise beaucoup les jeux de société comme démonstrateurs de l'IA, parce que c'est intéressant techniquement, mais est-ce que ça pourrait jouer un rôle dans la médiation de l'IA? Est-ce que à travers l'exemple des jeux, on pourrait arriver à mieux expliquer l'IA, comment elle fonctionne, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire aux citoyens, tout le monde?
Alors, merci beaucoup, c'est une super idée, je n'y avais pas pensé. Parce qu'à chaque fois, je vous donne la liste classique. Oui, les jeux, c'est bien, il y a de l'expertise humaine, et puis c'est facile de tester, et après, on va transférer. Mais c'est vraiment une idée géniale. C'est-à-dire d'arrêter de survendre l'intelligence artificielle. Hein. Moi, je ne dis pas que Mikaï a fait un truc génial qui révolutionne tout. On arrive, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Pour moi, je dis, bah, je ne sais pas. Mais c'est pas du mini-mire, hein. Il ne va pas faire la vaisselle, etc. On fait un petit bout, on est modeste. Mais ce petit bout, par contre, on le fait de manière juste. Et c'est vrai que c'est une super idée de dire, bah, voilà, il y a telle caractéristique. Par exemple, univers incomplet, en l'expliquant comme on peut l'expliquer à des enfants. Là, tu vois toutes les informations, etc. Donc là, l'intelligence artificielle, effectivement, elle va savoir faire ça. Là, non, on ne sait pas encore. Et puis, on reconnaît que l'humain est plus fort. C'est vraiment très, très, très bonne idée de prendre les jeux et d'essayer de dire, oui, ben là, on est très, très loin. Sans tricher, quoi. Ou là, par exemple, pour le poker, il y a eu StarCraft, il y a pas mal de fakes dans les annonces, parce que c'est des sociétés qui ont besoin de montrer qu'elles existent. Mais on pourra dire, quand on dit le poker est craqué, la même manière quand les journalistes ont mis le bridge est résolu, moi j'étais horrifiée, j'ai dit non, le bridge n'est pas résolu, ok. Et justement, je me sers du bridge pour dire, bah là, waouh, on en est loin, l'épistémique, le machin, franchement, les humains, ils nous mettent 10 têtes sur les enchères, sur l'épistémique, encore. Et c'est une très très bonne idée parce que ce serait parlant pour effectivement des gens et pour donner les vraies limites et les vrais avantages des différentes techniques d'intelligence artificielle.
D'ailleurs, je crois que si vous avez l'image qu'on a choisie pour cette journée, c'est un jeu de vulgarisation d'intelligence artificielle. Donc, il existe apparemment des jeux aussi sur l'intelligence artificielle pour donner des infos, pour faire connaître l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si Benoît voulait rebondir sur la question. Moi, j'aurais peut-être une question. Je peux rebondir sur ça, mais j'avais aussi peut-être une question. Déjà, peut-être dans ta pratique de journaliste aussi, quelles sont peut-être les difficultés que tu rencontres dans la médiation de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que, effectivement, c'est un enjeu important. Et deuxième question complémentaire, tu as parlé tout à l'heure du coup de hiver ou printemps ou été d'intelligence artificielle. Effectivement, ça, c'est très intéressant parce que ça n'a pas juste une dimension descriptive, mais j'ai l'impression que c'est aussi une dimension prescriptive, normative. C'est-à-dire que déjà parler de été ou de printemps d'intelligence artificielle, ça crée une boucle positive qui renforce la volonté de faire des recherches dans ce domaine. Donc, c'est pas juste la description d'un état de fait, mais c'est plutôt, on va dire, une volonté de donner vie à quelque chose. Donc, voilà, si tu peux rebondir sur ça, merci.
Oui, je crois que sur ce qu'on appelle l'imaginaire de l'IA, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que ça nous éloigne en fait souvent des vrais sujets. Je pense que ce qui est important dans le travail qui était présenté avec le robot Nook, c'est qu'en fait l'explicabilité, en fait, elle permet de mieux comprendre comment fonctionne l'IA et de mieux interagir. On est vraiment sur une question d'interface, en fait. Et c'est important parce que l'interface, c'est ce qui nous permet de vraiment utiliser l'IA, de l'utiliser comme un outil, de le rendre utile, alors qu'effectivement, la boîte noire nous empêche de la comprendre et nous empêche de bien interagir. Donc, je pense que toute la question de la pédagogie, elle doit vraiment se faire dans l'optique de l'IA qui est utilisable comme un outil. Il n'y a pas d'autre raison. Je veux dire, se dire « je vais inventer une intelligence artificielle qui sera l'équivalente de l'homme », s'il n'y a pas d'utilité derrière, c'est un fantasme qui est intéressant, mais en tout cas, c'est pas forcément la bonne direction à prendre. Et je pense qu'en plus, comme on n'y est pas encore et on n'y est pas du tout, parce qu'on a encore besoin de comprendre comment notre cerveau fonctionne, je pense qu'on ne pourra pas vraiment ça attise les fantasmes. Je crois que dans la question du jeu, je reviendrai sur cette histoire de donc on a parlé du bridge, mais sur le Go, ce qui est intéressant, c'est dans le combat qu'il y a eu entre AlphaGo et notamment un des champions du monde qui s'appelle Lee Sedol. La réaction de Lee Sedol était plutôt beaucoup d'émotion. Je crois que Véronique en a parlé tout à l'heure de l'émotion. Et il a dit, en fait, le jeu de Go est un jeu qui est très traditionnel, où il y a beaucoup en fait de schémas culturels qui interviennent. Et je me suis rendu compte, c'est Lee Sedol qui parle, je me suis rendu compte qu'en fait, je fonctionnais de façon très traditionnelle, et de voir le robot prendre des décisions qui semblaient complètement irrationnelles et qui allaient contre les règles habituelles du Go, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'immenses possibilités dans le jeu de Go que je n'avais pas vues. Donc finalement, il dit, ben moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer dans mon jeu. Et je crois que c'est cette notion-là qu'il faut parvenir à retenir. Si on prend qu'un seul exemple, en fait, l'intelligence artificielle, ce sont des fonctions cognitives et qui peuvent nous aider en fait à mieux fonctionner. Par exemple, on a l'impression que l'humain est extraordinaire. On dit que les robots sont cons, mais les humains sont très cons aussi. Et quand on lit, par exemple, des choses, on oublie constamment ce qu'on a lu. Et une intelligence artificielle qui nous permettrait de conserver ce qu'on a lu, par exemple, de nous le rappeler, de nous servir donc de soutien en fait à la connaissance, nous permettrait de gagner beaucoup plus de temps et d'être beaucoup plus efficace dans nos fonctions cognitives. Le seul problème, c'est qu'on a besoin de savoir si le robot décide de conserver un certain nombre de connaissances que l'on a oubliées. Il faut bien comprendre évidemment comment le robot va trier, comment est-ce qu'il va nous les ressortir. Donc la question de l'explicabilité et de la relation avec l'IA, elle est extrêmement importante. Donc je pense que vraiment dans cette essayons vraiment de nous poser la question de quoi on a besoin, et que l'intelligence artificielle est plutôt là pour nous aider dans nos fonctions cognitives, pour être plus efficace, pour mieux travailler, pour gagner du temps, parce que notre cerveau n'est pas si puissant que ça, et que justement l'IA peut nous aider à nous améliorer. Je pense que c'est le seul débat qu'il faut avoir, être très très concret sur l'usage que l'on veut vraiment faire de ces machines.
Merci. Il y avait juste une question en ligne qu'on va faire rapidement pour Véronique. Donc, si peut-être la lire ou faire un résumé.
Concernant les économies d'énergie réalisées grâce à l'intervention de la logique humaine en arrière-plan, je n'ai pas compris si celle-ci se faisait à la place du deep learning. Si oui, cette méthode est-elle transposable à des projets de plus grande envergure, santé, transport? Alors, c'est la clé de l'hybride. Qui n'est pas décrit, ce qui n'est pas appris par du deep learning, c'est récupérer l'expertise humaine. Donc, c'est construire ce qu'on appelle une background knowledge, discuter avec des experts qui vont fixer un vocabulaire, fixer des notions qui sont importantes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de travailler sur un domaine abstrait, plutôt d'être toujours au niveau des données brutes, de mettre en fait ce qu'on appelle une sorte de sémantique d'intelligence au-dessus des données. Donc c'est par exemple, le médecin va dire de 0 à 3 mois c'est une question, etc., etc. Alors on va avoir l'âge exact, mais on peut enrichir. Et ce type de méthode, c'est ce qui permet, quand on pose une requête, par exemple, sur une base de données, quels sont les scientifiques nés en Europe. Si on regarde dans la base de données, Einstein est né à Ulm, il est physicien. Il n'y a pas scientifique, donc on ne va pas saturer. Et si on utilise cette background knowledge, on va savoir que Ulm, c'est en Allemagne qui est en Europe, et que la physique, c'est une sorte de science. Et donc, on va pouvoir envoyer Einstein. C'est exactement ce que fait un humain. Donc, on est toujours à ce niveau-là. Donc, et en plus, ça permet de fournir des explications en utilisant le vocabulaire, par exemple, du médecin ou du bridger. Sur le bridge, j'ai plein d'exemples. On a fait des explainers, ça ne parle qu'au bridger. Par contre, on a transposé ça sur des données de finance, sur des données d'aéronautique. Et là, quand on dit au médecin, on va choisir ce traitement parce que c'est un blessant et qu'il est en obésité, etc. Voilà, on n'est pas au niveau des données brutes. Il va pouvoir non seulement avoir ses explications et dire, ah ben non, parce que ça n'a rien à voir. Donc, on va en plus établir un dialogue, récupérer de nouveau son expertise. On ne va pas lui demander de tout décrire avant pour pouvoir réaliser ça. Par contre, je voudrais juste dire un truc pour rebondir sur... moi, je trouve ça très, très intéressant ce que Fabrizio a dit sur est-ce que l'imaginaire, c'est vraiment un imaginaire libre ou est-ce qu'on nous l'impose ? Moi, j'ai une position plutôt un peu trash, comme je vais dire. On nous impose beaucoup cet imaginaire et ce n'est pas sans raison. L'imaginaire qu'on nous impose par rapport au deep learning et à tous les exploits des GAFAM est lié au fait que plutôt que de séparer symbolique et numérique, ça c'est quelque chose de très technique, il y a deux types d'IA. C'est l'IA qui est centrée sur les data et l'IA qui est centrée sur l'humain. Voilà. Après, les technos derrière, on s'en moque. Eh bien, imaginez qui a les data. Voilà. Et d'arrêter d'autres, ils ont hyper intérêt que l'autre imaginaire vous dise « Ah, mais c'est ça qu'il nous faut. » Mais en fait, à quoi ça sert derrière, comment ils font leur business model, c'est des systèmes de recommandation. C'est pour ça que, voilà, on chope vos data. Et puis là, pour le coup, c'est eux qui les ont. Donc nous, en tant qu'Européens ou petites boîtes, on ne peut pas lutter par rapport à ça. Mais ça tombe bien parce que moi, ça ne m'intéresse pas de récupérer toutes les data pour essayer de refourguer des oreillers quand quelqu'un s'est baladé, etc. Mais c'est pas fake ce que je dis. C'est qu'il y a énormément d'imaginaire qui est lié à cette histoire de qui possède les data. Et du coup, ils ont vraiment tout intérêt, et y compris Yann Lequin. Hein. Yann Lequin, c'est quelqu'un, un chercheur qu'on connaît, mais quand on voit ses posts, il est très sectaire en fait sur Facebook. C'est-à-dire que même nous qui sommes une toute petite boîte, il faut être modeste, il y a eu un tel buzz dans le monde entier que la communauté du symbolique a dit « Regardez, il n'y a pas que le deep learning », mais on s'en est pris plein la tête. On s'est retrouvé au milieu d'une sorte de guerre, il y en a qui se servaient de nous, etc. Et c'est vraiment idiot parce que moi, c'est « Ouais, c'est génial le deep learning, mais j'en ai mis là, quoi. C'est pas « Non, je vais remplacer leur méthode, c'est faisons des choses ensemble ». Évidemment, ils n'ont pas trop intérêt à faire ça parce qu'ils ont recruté tous les chercheurs de deep learning, tous les masters sont là-dessus. Heureusement, il y a quelques pays qui commencent à penser différemment. Et la France aurait vraiment intérêt à pas rentrer dans ce jeu parce que, pour le coup, il y a des très très bons chercheurs. La France est très bien représentée dans des conférences internationales sur des domaines variés, y compris des domaines centrés sur l'humain. Et vouloir se mettre sur les traces de données data, c'est juste une aberration. Donc on est là, génial, Facebook France. Ben oui, Facebook France, qu'est-ce qui se passe? Moi, les chercheurs de mon labo, ils sont absorbés parce qu'ils gagnent 10 fois plus, parce qu'ils ont un environnement de travail. Et la France dit bravo, mais c'est impensable. Et on sait très bien qu'ils sont là aussi parce qu'il y a énormément de le CIR, etc. Donc ils piquent les chercheurs, moi j'ai des amis qui travaillent chez Facebook, je suis pas anti-Facebook, mais il faut quand même arrêter d'avoir de rentrer dans l'imaginaire qui nous impose et de se laisser complètement communiser.
Merci pour ce retour. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, peut-être qu'on va conclure. Oui. Donc, merci. Donc, Eric, je pense que tu as le micro. Après.
Merci à nos invités. Est-ce qu'on m'entend là? Là, si je mets mon micro, c'est bon? Voilà. Merci à nos invités de votre participation à cette matinée. C'est vraiment pour nous extrêmement stimulante. Merci à vous présents dans la salle et à vous présents à distance. Je vais simplement conclure en vous disant que la chaire donc va proposer d'autres webinaires, donc un webinaire en janvier, date encore non fixée, mais qui portera sur les métiers du numérique, et un qui devrait se tenir en mars, qui portera sur numérique et performance sportive. Voilà. Merci à tous de votre participation et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Voilà. Merci.
Oui, merci.
Bah, c'est Benoît.
Merci.
Ouais, merci, Benoît. Tu m'entends?
C'est bon, je vous entends, ouais.
Bah, merci pour l'intervention. C'était très intéressant. J'espère que même toi, ça t'a apporté la matière à réflexion.
Non, super, ouais, bah, ouais. Ouais, je suis content plus de rentendre Véronique. Je trouve que leur projet est super intéressant.
Bah, très bien.
Merci beaucoup. À bientôt.
Allez, bonne journée. Merci.